Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud.
Bien, bonsoir, merci d'être là pour cette dernière séance concernant le cours à proprement parler, puisque les trois séances qui nous restent seront consacrées pour les deux suivantes à une conclusion générale de l'année. Et puis la dernière séance m'a été un peu soufflée par les événements récents, puisqu'on assimile un peu mon travail à une critique de toute psychanalyse, ou de la psychanalyse en général. Je souhaiterais faire une espèce d'apostille au crépuscule, qui pourrait donner une espèce de petit livre un jour qui me permettrait de montrer que je ne suis évidemment pas opposé à la psychanalyse en général, qu'il y a des psychanalyses, mais qu'il nous a été loisible cette année d'aborder la psychanalyse freudienne. Et toute psychanalyse ne se réduit pas à la psychanalyse freudienne, bien sûr. Outre que l'an prochain, nous aborderons des psychanalyses alternatives, par exemple celle du freudomarxisme, il me semble intéressant d'apporter des pistes un peu positives, car la négativité est fatigante. Et à l'issue de cette année un peu négative, j'aimerais terminer sur une positivité, une proposition pour une psychanalyse post-freudienne. Et ce seront des pistes que je vous proposerai dans cette ultime séance. Voilà. Ce soir, je souhaiterais aborder la question de la politique de Freud, donc, et il m'a semblé que là aussi, il y avait une carte postale à déchirer, qui est la carte postale d'un juif viennois, libéral, modéré, centriste, voire centriste de gauche, une espèce de personnage qui aurait voté Bayrou aujourd'hui, quoi, si vous voulez. Donc, personnage, voilà, à droite avec les gens de gauche, à gauche avec les gens de droite, au centre, c'est-à-dire nulle part, vraiment, très précisément, enfin, une espèce de Freud inaudible sur le terrain politique. Dans la dernière séance, on a pu voir combien il y avait une espèce d'homophobie ontologique. La femme se définit par le manque du pénis, par l'aspiration au pénis. Elle est une femme, un objet castré. Elle est un objet pas fini. L'homosexuel, lui aussi, est un personnage qui s'est arrêté en cours de route sur son trajet évolutif. Donc, effectivement, le personnage qui n'est pas un libérateur en matière de sexualité n'est pas non plus un libérateur en matière de politique. Ce qui est assez singulier, c'est que quand vous abordez Freud, c'est comme avec Jésus ou avec De Gaulle ou avec Napoléon, les bibliothèques sont considérables, considérables. On a écrit sur tous les sujets. Mais quand vous voulez, du moins en langue française, regarder ce qui aura été écrit sur Freud et le politique, c'est-à-dire le politique au sens précis du terme, la théorie politique ou la politique, c'est-à-dire la politique politicienne, ses rapports avec la politique de son temps, vous ne trouvez pas grand-chose, pour ne pas dire rien, et que dans ce pas grand-chose, alors là, pour le coup, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on fait silence sur Dollfuss, on fait silence sur Mussolini, on fait silence sur la collaboration avec l'Institut Göring, et on fait silence aussi, surtout, sur la théorie de Freud, car il y a une théorie politique. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'une partie du malentendu concernant Freud relevait du fait que nous n'abordions Freud qu'avec des morceaux choisis, qu'avec un certain nombre d'œuvres qui ont été proposées en édition de poche et qui sont des œuvres évidemment aseptisées, pas dangereuses. Tous les textes dans lesquels justement on trouve l'homophobie, la phallocratie, la misogynie, tous ces textes-là n'ont jamais été véritablement édités et diffusés sur les grandes largeurs. On n'a pas de texte, par exemple, sur ces sujets-là, qui auraient été réunis dans un livre de poche accessible à tout un chacun. Là, c'est la même chose, il n'y a pas de texte politique à proprement parler de Freud, si ce n'est Pourquoi la guerre, et je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, et ce texte-là, évidemment, il faut vraiment, et là encore, je le redis, accéder à l'œuvre complète pour pouvoir en prendre véritablement connaissance. C'est un personnage, Freud, qui a vécu dans son cabinet. Je vous invite à aller faire un tour, d'ailleurs, au 19 Berggasse à Vienne. Le bâtiment parle lui-même, ou du moins le cabinet, d'une espèce de petit utérus miniature, personnel, tapissé de livres. Il y a des tapis, il y a des objets d'art, des collections, une collection ancienne. On a déjà eu l'occasion de parler de sa dilection particulière pour les petites statuettes grecques, égyptiennes, romaines. Il vit dans cet univers-là. Et on a vraiment l'impression que le monde, c'est cet endroit-là et rien d'autre. que derrière la fenêtre, il ne se passe rien, que dans les rues de Vienne, il n'y a rien, que dans l'Autriche de l'époque, il n'y a rien non plus, que dans le monde entier, il n'y a rien, si ce n'est la possibilité pour lui d'installer sa discipline et de la faire diffuser. Sortir de sa maison, sortir de son bureau n'est pensable pour lui que dans la mesure où, comme saint Paul, il a envie d'universaliser son propos, de conquérir le monde entier. Et le monde, pour lui, c'est une espèce d'immense champ de bataille sur lequel il faut mener une guerre afin que la psychanalyse puisse devenir une espèce de religion nouvelle ou de proposition idéologique nouvelle. Il y a donc un déni de l'histoire qui est considérable chez lui, vraiment considérable. C'est-à-dire que si on cherche dans l'œuvre complète, les moments dans lesquels il est vraiment question de l'histoire, du moment donné, de la Première Guerre mondiale, par exemple, de la montée du fascisme, de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de la présence de Mussolini au pouvoir, enfin de ce qui se passe autour de lui, de ce qui a lieu dans sa vie réellement, on chercherait en vain. Il n'y a pas de souci de l'histoire. L'histoire de sa propre personne, elle est intéressante pour lui, mais dans la mesure où elle lui permet de faire l'éloge de son inconscient, de ce qu'il y aurait trouvé, découvert. En dehors de ça, l'histoire personnelle n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire que les rêves de Freud, oui, sa femme, ses enfants peuvent exister, mais dans la mesure où ils auront existé dans un rêve. Alors à partir de ce moment-là, ils peuvent entrer dans l'œuvre. Mais l'œuvre est aseptisée sur le terrain de l'histoire, et à l'évidence, on chercherait en vain des influences, des lectures, des rencontres ou des propositions qui nous permettraient de dire, voilà, celui-ci a compté pour moi, celui-là a compté pour moi, cet individu m'a rendu possible la théorie du lapsus, la théorie de l'acte manqué, la théorie de la psychopathologie de la vie quotidienne. Ça, évidemment, ça n'est jamais signalé. Il y a une dimension anhistorique chez Freud, c'est-à-dire une dimension qui néglige l'histoire, aussi bien l'histoire d'un individu inscrit dans son temps que l'histoire de son temps. Il efface les traces, comme vous le savez, on a déjà eu l'occasion d'en parler, il rachète des correspondances, il détruit des correspondances, il met le feu à des notes, enfin, il n'a surtout pas envie qu'on aille voir ce qu'est l'histoire de sa propre aventure, parce qu'il préfère la légende. On le sait, il préfère le mythe scientifique à l'histoire, et voilà quelqu'un qui a détesté l'histoire toute son existence, mais qui pourtant, de temps en temps, et on va le voir sur ce terrain politique, a été pris par elle, et pas forcément complètement à son avantage. Je vous ai dit que la correspondance était une mine de renseignements pour savoir ce qu'était la généalogie de cette discipline, et bien c'est la même chose, dans la correspondance, on voit très peu, quel que soit le correspondant, très peu l'histoire apparaître, très peu de choses, vraiment peu d'informations. On évince l'histoire du monde et on se polarise sur l'histoire égotique et narcissique de la discipline et des disciples. C'est-à-dire que de lettre en lettre, vous avez des détails sur la vie des congrès, sur le bilan des forces en jeu, sur les travaux en cours, qui fait quoi, qui écrit quoi, machin écrit sur ce sujet, bidule sur tel autre, il est très bien, c'est un zélateur, ou il commence à être un peu gênant parce qu'il pense un peu par lui-même. Freud joue l'un contre l'autre. Il est capable de fabriquer des espèces de relations très intimes en laissant croire à chacun qu'il l'aura choisi comme une espèce de disciple préféré, qu'il aura élu celui-ci un peu contre les autres, et puis il fait ça aussi avec les autres. Enfin, c'est un personnage qui manœuvre parce qu'il s'agit la plupart du temps de comptabiliser les zélateurs et les traîtres, ceux qui sont utiles au développement de la discipline et ceux qui sont franchement gênants. Et puis, il y a toujours cette obsession de l'avancement de la discipline dans le monde, qui a fait quoi, dans quel pays, quel article a été publié, est-ce qu'il y a eu un congrès, création d'une revue, création d'un colloque ou citation de tel ou tel dans une conférence, dans une thèse ou dans un article tout à fait particulier. Donc éviction volontaire, me semble-t-il, puis éviction involontaire également de l'histoire. Pourtant, je souhaiterais, moi, vous proposer la construction d'un puzzle. Parce que les pièces sont disséminées dans l'œuvre complète, parce que les pièces sont aussi dans la biographie, et que quand on ramasse tout ça, on finit par avoir un paysage, ma foi, très très effrayant. Donc je renvoie à des faits historiques dans un premier temps. Alors évidemment, d'aucuns peuvent dire qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, que solliciter une femme de ménage, c'est pitoyable, et qu'aller demander à Paola Fitchell des renseignements sur les positions politiques de Freud, c'est tout à fait pitoyable. Je voudrais tout de même faire savoir que quand je renvoie à ce livre d'Ethelf Bertelsen qui s'appelle « La famille Freud au jour le jour » et qui est sous-titré « Souvenirs de Paola Fitchell », cette fameuse femme de ménage, j'aime pas beaucoup l'expression, mais enfin dame de compagnie, ou c'est la dame de confiance d'une certaine manière, eh bien il faut savoir que cet ouvrage a été publié aux Presses universitaires de France, Donc on est dans une perspective universitaire, dans une collection dont le titre est « Stratégie de la psychanalyse ». Et la collection elle-même se nomme « Bibliothèque de psychanalyse » et elle est dirigée par Jean Laplanche, qui, avec Pontalis, est à l'origine d'un vocabulaire de la psychanalyse, toujours aux presses universitaires de France, qui fait totalement autorité. Donc je renvoie à ce texte-là parce que les psychanalystes eux-mêmes ont jugé bon de le traduire, de l'éditer, de le diffuser, de le présenter, de porter à la connaissance du public. Donc si vraiment ce sont des ragots, si ça compte pour zéro, alors pourquoi les psychanalystes eux-mêmes proposent cette traduction ? Moi, je trouve très intéressant de pouvoir lire des choses pas forcément toujours très, très, très intéressantes, mais au détour, enfin a priori intéressantes, mais au détour d'une phrase, de découvrir par exemple celle-ci. C'est une citation. « Le gouvernement autrichien est certes un régime plus ou moins fasciste, déclare Freud à Max Schur, son ami médecin. Malgré tout, selon le souvenir que Martin, le fils de Freud, conserve des dizaines d'années plus tard, il avait toutes nos sympathies. Le massacre que fait le Heimwehr parmi les ouvriers de Vienne laisse Freud indifférent. » Voilà donc l'information qui nous est donnée, c'est-à-dire qu'il y a un austrofascisme, c'est le chancelier Dollfuss. Il est très précisément dit par cette dame, Paula Fitchel, que le fils lui-même se souvenait effectivement des sympathies fascistes de Sigmund Freud. Donc il n'est pas question de dire qu'il est fasciste. Il ne s'est pas inscrit à un parti fasciste, comme l'a fait Heidegger, au Parti national-socialiste, mais il a des sympathies pour ce gouvernement-là. Qui est Dollfuss ? C'est donc le fameux créateur de l'austrofascisme, c'est-à-dire un fascisme typiquement autrichien, et un personnage dont on sait ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'a été sa carrière. Le 4 mars 1933, par exemple. Souvenez-vous que c'est le 30 janvier 1933 que Hitler arrive au pouvoir, qu'on est donc dans une perspective déjà d'Europe fasciste. Vous avez Mussolini depuis longtemps, vous avez Hitler à ce moment-là, vous avez Dollfuss dans cet endroit, donc effectivement l'Europe est cernée par les fascismes, que ce soit ce fascisme-là, fascisme de droite, ou le fascisme rouge qui sera le fascisme bolchevique ou qui est le fascisme bolchevique depuis 1917. Dollfuss est donc un chrétien conservateur et nationaliste, et le programme fasciste, il est clair, hein, suppression de la République, instauration du parti unique, abolition de la liberté de la presse, instauration d'un État autoritaire, catholique et corporatiste, suppression du droit de grève, droit de réunion également, et abolition des cours d'assises. Donc vous voyez à quoi ressemble le climat politique ce 4 mars 1933. Le 30 mai de la même année, il interdit le Parti socialiste. Le 20 juin 1933, il interdit le Parti national socialiste et on se dit, et on se sert souvent de ça en disant, ben voilà, le chancelier Dollfuss n'était pas nazi puisqu'il interdit le Parti nazi. Il faut savoir que le Parti nazi est interdit pour une raison bien simple, non pas parce qu'il défend des thèses nazies, mais parce qu'il défend l'Anschluss, c'est-à-dire le fait qu'il faudrait rattacher l'Autriche à l'Allemagne, ce qui aura lieu, comme vous le savez, l'Anschluss sera une décision unilatérale, bien sûr, d'Hitler, même si Hitler tâchera de négocier avec Dollfuss et que Dollfuss était un fasciste nationaliste et qui voulait une Autriche autrichienne et qui ne voulait pas une Autriche allemande, il n'empêche, on reste tout de même dans un registre fasciste. Il crée un parti unique et qui s'appelle le Front patriotique et il gouverne par décret, comme la plupart du temps, à chaque fois, dans les régimes autoritaires. Le 12 février 1934, et c'est important puisque la citation dit très précisément que ce qu'avait fait le Heimwehr parmi les ouvriers de Vienne laisse Freud indifférent. Ce qu'a fait donc la police militaire, c'est très précis. Il y a des émeutes ouvrières, 36 heures de combat dans les rues de Vienne. Freud habite Vienne, donc il ne peut pas ne pas savoir, il ne peut pas ignorer qu'il y a une émeute ouvrière, et il ne peut pas ignorer non plus que cette émeute elle est réprimée par l'armée, puisqu'il y a des bombardements aériens, des tirs d'artillerie, que les soldats utilisent les gaz et l'aviation, qu'un pont de chemin de fer est dynamité par les émeutiers, puisqu'il était prévu qu'arrive un train blindé avec des renforts de troupes pour mater la rébellion. Ce sont toutes ces choses-là que Freud prétendument ne voit pas. Il passe à côté. Alors que finalement, quand on regarde les détails, et je vais vous donner quelques lettres et quelques correspondances qui font la démonstration qu'il savait et qu'il était d'accord. C'est-à-dire que quand Paula Fitchel dit ça, sympathie de Freud pour l'austrofascisme du chancelier Dollfuss, et qu'au moment où le chancelier Dollfuss mate l'émeute ouvrière, eh bien Freud effectivement porte un jugement très précis sur ce sujet-là. Il est du côté de Dollfuss. Il y a des tribunaux d'exception suite à cette émeute ouvrière, et les tribunaux d'exception se jugent sommairement et condamnent à mort. Il y a des ouvriers pendus, et la répression fait entre 1500 et 2000 morts et laisse à peu près sur le carreau 5000 blessés. C'est quand même pas une petite aventure, et bien voilà ce qui laisse Freud indifférent, si je renvoie au texte de Paola Fitchel. Alors on pourrait dire, propos de femme de ménage, elle n'est pas forcément très, très au point, ou elle ne se souvient pas forcément, elle peut se tromper tout de même, et bien je renvoie à une lettre écrite par Freud à Hilda Doolittle, dans laquelle il explique qu'il y a une répression, que la répression s'est abattue sur des bolcheviks, nous dit-il. Or, ce ne sont pas des bolcheviks, ce sont des sociodémocrates. Ce n'est pas exactement la même chose. Et si Freud avait eu le souci de l'histoire, il aurait pu comprendre que les fameux sociodémocrates d'alors auraient pu être des remparts, justement, contre un bolchevisme qui, lui, aurait pu être pensé comme dangereux. Mais que, lui, Freud n'attend pas grand-chose de bien des fameux sociodémocrates qu'il prend pour des bolcheviks. Donc il y a très précisément une prise de position anti-bolchevique, anti-marxiste, anti-sociodémocrate à cette époque-là sur ce sujet-là chez Sigmund Freud. Que disent les biographes ? Ils sont peu, je vous l'ai dit, les biographes, ils sont peu et en même temps ils sont souvent des hagiographes. Cherchez par exemple chez Ernest Jones, dont vous connaissez désormais le nom, les trois gros volumes de la vie et l'œuvre de Sigmund Freud, qui sont donc qui constituent les tomes d'une biographie princeps, c'est-à-dire ça sert ensuite à toutes les autres biographies. Les autres biographes se contenteront de reprendre par-ci par-là les informations données par Jones. Eh bien, vous cherchez dans les 1500 pages de cette biographie, le nom de Dollfuss ne s'y trouve pas. Donc comme ça, la chose est claire. Vous prenez Peter Gay, qui, lui, un petit peu plus tard, va faire une biographie qui est aussi une hagiographie, elle s'augmente de quelques informations, mais lui parle de la neutralité de Freud. C'est le mot qu'il utilise, page 684. Il parle de la neutralité de Freud. Et Gérard Hubert, dans une biographie qui a un an, je crois, qui vient juste de paraître, page 786, il écrit « Freud fait le dos rond devant le fascisme spécifiquement autochtone du chancelier autrichien ». Faire le dos rond, c'est pas exactement faire le dos rond que de consentir à cette aventure. Et Paul Roazen, qui lui écrit un livre qui s'appelle « La pensée politique et sociale de Freud », eh bien trouve moyen même de ne pas citer le nom de Dollfuss du tout, alors que le livre est spécifiquement consacré à cette question-là. Voici pour Dollfuss. Pour Mussolini, il y a une vraie sympathie pour Mussolini. Il y a un texte, pour le coup, donc c'est assez facile, quand Michael Borg-Jacobsen dit que toute phrase de Freud qui n'est pas soutenue par un texte peut être considérée comme une légende. En revanche, cette dédicace, elle existe très précisément. Comment est-ce qu'elle a lieu ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour Freud fait cette dédicace et quelle est-elle véritablement ? Eh bien, c'est Eduardo Weiss, qui est un psychiatre qui a étudié à Vienne, qui est devenu le psychanalyste italien, le seul à peu près dans les années 20. Il fonde à cette époque-là d'ailleurs une société psychanalytique, une revue de psychanalyse également, et en 1933... Donc, Dollfuss est au pouvoir, Mussolini est au pouvoir, Hitler est au pouvoir. Il vient d'Italie avec une patiente donc, qui pose problème et le père de cette patiente. Il se fait que le père est un ami de Mussolini. Donc, l'analyse a lieu, la rencontre a lieu, et à l'issue de cette rencontre, l'homme en question, enfin le père de cette jeune fille, demande un livre dédicacé à Freud parce qu'il souhaite l'offrir à Mussolini. Donc la chose est très claire, quelqu'un demande à Freud, qui a 77 ans, une réputation internationale, tout le monde le connaît, la psychanalyse est universellement connue, eh bien un homme demande pour Mussolini un livre avec une dédicace. Freud peut dire non. Il peut dire oui, mais faire une dédicace vraiment ironique. Il peut choisir un texte qui pourrait être une espèce de message codé. Il choisit un livre en particulier qui est « Pourquoi la guerre ?». Il aurait pu, à l'époque, offrir « L'interprétation des rêves ». C'est son grand livre, il nous dit que c'est son chef-d'œuvre et que, assez probablement, c'est avec ce livre qu'il laissera un nom dans l'histoire. Il aurait pu choisir quelque chose de plus facile aussi, « Psychopathologie de la vie quotidienne ». Un ouvrage dans lequel il est question des lapsus, des actes manqués, c'est rempli d'anecdotes, de petites histoires. On peut sans difficulté imaginer que ce livre-là aurait pu être choisi. À l'évidence, des livres comme « Métapsychologie » ou « Au-delà du principe de plaisir » sont des livres un peu techniques. Ce qu'il y a de plus technique et de plus philosophique chez Freud, et on peut imaginer qu'il ait laissé ces deux ouvrages-là de côté. Mais pourquoi ce livre-là, à savoir « Pourquoi la guerre ?» La dédicace, la voici. Ouvrez les guillemets. À Benito Mussolini, avec le salut respectueux d'un vieil homme qui reconnaît en la personne du dirigeant un héros de la culture. Vienne, 26 avril 1933, et Freud signe. Donc voilà, salut respectueux. On sait ce qu'est un salut dans l'Italie fasciste, on sait ce qu'est un salut respectueux. Le vieil homme, c'est lui qui reconnaît donc dans le dictateur un héros de la culture. Et qui est Mussolini ce jour de 26 avril 1933 ? Eh bien, c'est le personnage qui évidemment soutient Dollfuss à cette époque-là. Il peut y avoir une certaine ambiguïté, puisque à l'époque, effectivement, sur cette question de l'Anschluss, eh bien, le Parti national-socialiste peut être problématique. Un Autrichien peut imaginer qu'effectivement, les Allemands veulent l'intégrer, le digérer. En revanche, les Italiens considèrent qu'effectivement, il faut que l'Autriche reste autrichienne et que Dollfuss également pense que l'Autriche doit rester autrichienne. Donc, il soutient Dollfuss, le Duce, mais il l'est depuis 11 ans. Donc, il ne vient pas d'arriver au pouvoir. On sait qui il est, on sait ce qu'il a fait. On ne peut pas imaginer que Freud n'est pas au courant de ce qu'est l'Italie fasciste. Et l'Italie fasciste, comme l'Autriche fasciste, c'est parti unique, suppression de l'opposition, chasse à la gauche, dissolution des partis, un nationalisme exacerbé, une persécution des syndicalistes, des violences de rue, chacun le sait, avec des milices violentes et brutales. Dès qu'on trouve un communiste, un socialiste, un radical, un franc-maçon, un juif, on l'embarque, on le torture, on lui fait avaler de l'huile de ricin et on les torture dans la baignoire. Les emprisonnements sont arbitraires. Ce n'est pas quand ça peut vous arriver. Il suffit que vous puissiez déplaire à un chef local du parti fasciste et vous voilà bon pour la prison, la bastonnade et parfois pire. Les fonctionnaires n'ont pas le droit dans l'Italie fasciste de ne pas être fasciste. C'est-à-dire qu'il faut prendre une carte au parti fasciste pour pouvoir être fonctionnaire dans cette Italie-là. Censure de la presse, bien sûr. Mainmise sur la radio, suppression du droit de grève, corporatisme, c'est-à-dire disparition des syndicats, les syndicats libres et qui sont susceptibles de travailler dans la perspective de la lutte des classes, considérant effectivement que l'intérêt des ouvriers n'est pas l'intérêt du patronat, eh bien ces syndicats-là disparaissent au profit des corporations, dont vous savez qu'elles sont des associations patronales ouvrières qui sont l'occasion de dire que le patron et l'ouvrier ont les mêmes intérêts et qu'il n'est pas question pour l'ouvrier de demander au patron des augmentations de salaire, des réductions de temps de travail, parce que ça fait baisser le rendement économique. Donc la corporation, c'est le syndicat fasciste maison. Donc la corporation remplace le syndicalisme. À cette époque-là, il y a déjà des opérations militaires en Méditerranée, avec une franche visée impérialiste de la part de Mussolini. Et puis il y a, comme dans tous les pays fascistes, une instruction militaire, intellectuelle et physique des enfants, donc du sport, des chants guerriers appris à l'école, et effectivement toute disparition d'un enseignement républicain. De plus, pour le Freud qui écrit sur la morale sexuelle et sa répression, pour le Freud qui fait savoir que effectivement la société est violente et brutale sur les questions de libido, eh bien, il faut savoir qu'il y a une politique nataliste extrêmement militante chez Mussolini, avec des taxes sur les célibataires, des primes aux naissances, des interdictions de l'avortement et de la contraception. Donc on est dans une politique ultranationaliste et on ne peut pas ne pas le savoir non plus. Donc voilà l'homme auquel Freud fait cette dédicace et à qui il envoie ce fameux salut respectueux. C'est, me semble-t-il, une dédicace sans ambiguïté. Vraiment que les gens qui veulent absolument défendre leur héros pour trouver que c'est une dédicace ironique. Enfin, on va revenir un petit peu tout à l'heure sur la question de l'interprétation de cette dédicace chez les hagiographes, mais c'est une dédicace sans ambiguïté. Jones la rapporte, cette dédicace, et comme par hasard, il supprime le salut respectueux. Donc c'est assez singulier, c'est-à-dire si on rapporte la dédicace en oubliant le salut respectueux, c'est pas par hasard. Ce n'est pas une erreur, c'est bien volontairement qu'on trouve effectivement que c'est peut-être un peu lourd de renvoyer au salut respectueux. Le fameux Weiss, le fameux psychanalyste italien, rapporte le détail de cette aventure à Ernest Jones et lui demande de n'en rien rapporter. Donc même chose, tous ces gens qui prétendent que c'est de l'humour ou de l'ironie, on ne voit pas pourquoi. D'une part, Jones supprimerait ce qu'il y a de plus problématique dans cette dédicace, et d'autre part, pourquoi Weiss lui demanderait de faire totalement silence sur ce sujet-là. Si le sujet n'était pas problématique, si la dédicace n'était pas problématique, eh bien, il n'y avait pas besoin soit de la mutiler, soit de demander que silence soit fait sur elle. Alors, évidemment, vous avez toujours des gens qui veulent défendre l'indéfendable et qui considèrent que, puisque dédicace il y a, il faut bien que la dédicace ne signifie pas ce qu'elle dit. Donc on a l'habitude avec les psychanalystes, puisque vous avez des sens réels, puis des sens cachés, et puis vous avez des choses qui peuvent signifier a priori, mais qui a posteriori signifient autre chose, et la plupart du temps très exactement le contraire. Donc il faut bien que cette dédicace, dommage respectueux du psychanalyste au fasciste, ce soit une critique du dirigeant fasciste par le vieil homme, malgré l'hommage respectueux. Il y aurait donc un sens caché à la dédicace. Et certains disent, mais il faut voir que Freud est un amateur d'antiquité, que Mussolini était un amateur d'antiquité, que donc Freud saluait l'amateur d'antiquité chez Mussolini et que ça n'avait rien à voir avec le dictateur. On pourrait même accepter cette hypothèse-là, simplement il faudrait faire la démonstration que la passion qu'avait Mussolini pour la Rome impériale, et pas pour la Rome républicaine, rappelons-le, la passion qu'il avait pour la Rome impériale suppose que la Rome qu'il aime, c'est la Rome fasciste, ou susceptible, pardon, la Rome n'était pas fasciste, mais susceptible de fournir un modèle à la Rome fasciste de Mussolini. C'est-à-dire un empire avec un César à la tête, extrêmement autoritaire, qui se moque plutôt du Sénat et qui n'a pas grand souci de ce que furent les institutions de la République romaine. Donc même si on veut accepter cette hypothèse d'une dédicace faite à un homme qui aimerait comme lui l'antiquité romaine, cette antiquité romaine, elle est fascistoïde, disons-le comme ça. Et ça n'est pas l'antiquité romaine républicaine. On n'est pas dans la grande logique des grands vertueux ou des Catons d'Utique, par exemple, mais on est dans la logique des empereurs de la décadence qui font de leur désir la loi ou qui font de leur caprice le droit. On nous dit également que, puisque l'œuvre complète est antifasciste, et ça reste quand même à prouver, puisque l'œuvre complète est antifasciste, il faut bien que cette dédicace soit elle aussi antifasciste. Et comme très peu de gens ont lu l'œuvre complète, on peut effectivement facilement croire que cette œuvre complète, elle est antifasciste. Or, c'est faux. C'est faux. Cette œuvre complète, elle est même plutôt susceptible de rendre possible le fascisme, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, en allant analyser quelques textes dans lesquels ces choses-là sont très évidentes. Et puis, il y aurait de l'ironie. Il aurait choisi Pourquoi la guerre ? Parce que c'est un livre pacifiste, et que ce livre pacifiste envoyé à Mussolini, c'était une espèce de mission impossible. Eh bien, il ne faut pas avoir lu Pourquoi la guerre pour faire de ce livre un livre pacifiste. Moi, donc, j'ai lu pour vous Pourquoi la guerre en me disant, mais qu'est-ce que ce texte ? Que dit ce texte véritablement ? Ce texte-là est un échange de lettres. Et effectivement, il y a des lettres d'Einstein, puis des lettres de Freud. Freud n'aime pas beaucoup qu'on considère qu'il puisse être à égalité avec Alfred Einstein. Il aime bien être tout seul, il est génial, il a déjà surclassé Copernic et Darwin tout seul. Donc il n'est pas question de composer avec un certain Albert Einstein. Et donc il fait savoir qu'il n'est pas très content dans sa correspondance, publiée à côté de cette correspondance, mais qu'il n'est pas très content d'échanger avec Einstein. Mais c'est une commande du Comité des Lettres de la Société des Nations. Et donc on demande, normalement c'était une espèce de collection qui devait démarrer, une collection d'échanges, pas forcément une mauvaise idée, entre des grands esprits d'un temps et d'une époque sur une question tout à fait particulière. Celle-ci, pourquoi la guerre ? Dans une lettre du 10 février 1933 que Freud envoie à Jeanne Lampel de Groot, il présente les thèses d'Einstein comme des sottises. C'est-à-dire que les thèses pacifistes d'Einstein sont des sottises. Freud le dit. Que sont les sottises d'Einstein ? Einstein propose les moyens de faire la paix, genre Société des Nations. Il faut dire que c'est une espèce de renvoi d'ascenseur et de politesse, c'est la SDN qui passe commande, effectivement sur le principe d'une paix perpétuelle, d'une espèce de renoncement de souveraineté, d'une partie des souverainetés nationales au profit de fédérations qui pourraient être l'Europe. C'était le cas de l'abbé de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, c'est le cas aussi de Kant à la même époque, fédérer. Des peuples fédérés des nations qui renonceraient à leur pouvoir de nuire pour constituer des possibilités de paix, de sérénité, de travail en commun. Ça, c'était la proposition, une des propositions d'Einstein. Sottise, dit Freud. Einstein dénonce également les marchands d'armes. Il dit, c'est quand même étonnant, la guerre, elle a lieu parce qu'il y a des armes, les armes, elles sont parce qu'il y a des marchands, et les marchands, jamais on ne les dénonce. personne ne les attaque jamais, dit Einstein. Sottise, répond Freud. Einstein dénonce la propagande idéologique des États. Il nous dit les États, ils ont avec eux la presse, les journaux, etc. On pourrait ajouter aujourd'hui la radio, la télévision. Ils ont l'école, ils ont l'église qui sont aux ordres et ils abrutissent les peuples. Les États abrutissent les peuples. Ils font savoir qu'il faut se préparer à la guerre, qu'il faut mener un combat contre les Allemands. Et on connaît l'histoire de la guerre de 70 et de l'espèce d'opposition entre les Français et les Allemands. Et puis après, enfin toute l'histoire, vous la connaissez, Sedan, 14-18, 39-45 et la suite. Eh bien, Einstein dit il y a une propagande idéologique des États et on ne dit rien sur ce sujet-là. Sottise. Dit Freud. Il critique les dictatures et les dictateurs, Einstein hein, toujours, qui fourbissent une psychose de masse. C'est extrêmement intéressant cette expression psychose de masse, puisqu'il n'y aura pas d'analyse du fascisme chez Freud. Il y aura en revanche une analyse critique du marxisme, mais pas d'analyse du fascisme. Quand il fait donc cette critique des dictateurs qui fourbissent les psychoses de masse, eh bien, Freud trouve que c'est une sottise. Et puis, il étend la guerre, Einstein, et ça c'est quand même important, petite phrase mais essentielle, aux persécutions de minorités nationales. Donc on sait bien que dans un moment comme celui-ci, les minorités nationales qui sont persécutées, c'est pas compliqué, hein, ce sont les Juifs et les Tziganes. Einstein dénonce ça. Freud trouve que dénoncer ça, ce sont des sottises. Donc, évidemment, toute la partie d'Einstein dans Pourquoi la guerre est une partie éminemment pacifiste. Maintenant, vous avez la partie de Freud. Quelle est une partie pessimiste et belliciste, voire belliqueuse. Freud nous fait savoir que certaines guerres ont permis un nouvel ordre juridique, c'est son expression. Il fait l'éloge de la guerre parce qu'il trouve qu'elle remplace la violence tribale par une violence d'État. De fait, on pourrait penser qu'il y a une espèce de théorie du contrat social chez Freud. On renonce à la violence tribale, on constitue une violence d'État. Max Weber dira plus tard que l'État, c'est l'instance qui dispose du monopole de la contrainte légale. Eh bien, de fait, Freud considère que la guerre, quand elle permet ça, est une chose défendable. Il nous dit de la guerre qu'elle est inévitable. Freud, citation. « Pourquoi nous indignons-nous tant contre la guerre, vous et moi et tant d'autres? Pourquoi ne l'acceptons-nous pas comme telle autre des nombreuses et cruelles nécessités de la vie ?» Il ajoute, dans la même page, « La question est de savoir si la communauté ne doit pas avoir également un droit sur la vie de l'individu. On ne peut condamner toutes les espèces de guerre au même degré. Tant qu'il y a des empires et des nations qui sont prêts, sans aucun égard à en anéantir d'autres, ces autres doivent être armés pour la guerre. » Sous-entendu, il y a des peuples armés, et bien soit il faut être armé aussi. Le désarmement ne peut pas se faire si on a en face de soi des gens armés. Or, on sait très bien que le désarmement peut se faire de manière unilatérale, et que le désarmement peut se faire aussi de manière bilatérale, que ça peut se négocier, et que l'argument du genre « que le voisin commence » n'est pas un argument, que c'est l'argument qui permet de ne jamais commencer et de faire de telle sorte que ça dure toujours. Donc, dans ce livre, petit texte, hein, c'est vraiment un texte très court, très dense, mais dans ce texte-là, la part qui revient à Freud est une part dans laquelle on apprend que la guerre est une nécessité culturelle de la vie, qu'on ne peut pas faire contre puisqu'elle est biologiquement fondée. Et Freud renvoie à cette fameuse pulsion de mort. On n'a pas eu l'occasion de rentrer dans le détail de la pulsion de mort, mais dans le moment du au-delà du principe de plaisir, il y a eu la guerre 14-18, il a eu ses enfants au front, et bien il a perdu une fille, il développe, mais lui prétend que ça n'a aucun rapport avec l'émergence du concept, il développe cette idée de pulsion de mort. Et il fait savoir qu'il y a, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà, un principe de nirvana, et que le principe de nirvana, il est présent dans tout ce qui est vivant. Ce qui est vivant veut retrouver l'état d'avant la vie. C'est-à-dire que ce qui est vivant va vers le néant, et qui est le néant d'avant la vie. Il y a donc une pulsion de mort. Elle est biologiquement fondée. Elle est dans tout ce qui est vivant. Dès que vous avez une cellule vivante, eh bien dans cette cellule vivante, vous avez ce principe du nirvana à l'œuvre. On n'en finira donc jamais avec la pulsion de mort. Elle est donc quasi inévitable. Nous dit-il, la communauté a des droits sur ceux qui la constituent, on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'État peut vous demander d'aller faire la guerre. Toute guerre n'est pas mauvaise en soi, dit-il, puisqu'elle est l'occasion de passer d'un certain type de violence, violence tribale, à un autre type de violence, violence d'État, qui lui paraît nettement préférable. Il nous dit que l'armement, le désarmement est une utopie, qu'on ne peut pas compter sur cette hypothèse, et qu'il faut être armé tant que les autres le seront. Voilà le texte de Freud dans cet échange en face d'un texte d'Einstein qui lui est un texte pacifiste. Donc ce texte que Freud choisit pour le dédicacer à Mussolini n'est donc pas du tout un éloge de la paix, c'est donc un éloge de ce que Mussolini peut faire, et on va voir un petit peu plus loin que d'autres thèses permettent d'aller dans ce sens-là également. Freud défend une espèce d'utopie politique. Et ça, c'est pareil, c'est un texte bien souvent caché, je vais vous le lire, il est un petit peu long, mais c'est un texte extrêmement intéressant, puisqu'on découvre que Freud défend un élitisme aristocratique pour éduquer les masses au renoncement pulsionnel à partir d'une figure qui pourrait être le César, le chef, le dictateur. Quelle est cette utopie politique freudienne? Il nous dit, ouvrez les guillemets, « Il faudrait consacrer davantage de soins qu'on ne l'a fait jusqu'ici pour éduquer une couche supérieure d'hommes pensant de façon autonome, inaccessible à l'intimidation et luttant pour la vérité, auquel reviendrait la direction des masses non autonomes. Que les empiétements des pouvoirs étatiques et l'interdit de penser venant de l'Église ne soient pas favorables à ce qu'on élève ainsi des hommes, n'a nul besoin de démonstration. L'État idéal serait naturellement une communauté d'hommes ayant soumis leur vie pulsionnelle à la dictature de la raison. Rien d'autre ne saurait susciter une union des hommes si parfaite et si résistante, même au risque d'un renoncement aux liaisons de sentiments entre eux. » Voilà l'hypothèse politique de Freud. Son utopie politique, une petite élite, une assemblée, une petite oligarchie vraiment très réduite d'individus qui seraient susceptibles de mater les besoins pulsionnels des foules et des masses. Le dictateur seul peut donner une forme au peuple informe. Voilà ce que Freud dit très précisément. Il défend donc la couche supérieure d'hommes. C'est l'expression qu'il utilise. À quoi il faut ajouter une autre réflexion, bien souvent oubliée. Il renvoie Freud aux races cultivées. Texte politiquement incorrect, mais qu'effectivement on n'a pas forcément envie de sortir aujourd'hui du détail de l'œuvre complète. Aujourd'hui déjà, écrit Freud, les races non cultivées et les couches attardées de la population se multiplient davantage que celles hautement cultivées. Voilà ce qu'on peut trouver dans ce bref texte. C'est quand même extrêmement dense de trouver autant d'informations politiques sur Freud dans ce bref texte qui est constitué de quelques lettres échangées avec Albert Einstein, intitulé « Pourquoi la guerre ?» et offert à Mussolini avec la dédicace que vous savez désormais. On pourrait dire, effectivement, c'est une dédicace, vous en faites une drôle d'interprétation, ça peut être un truc d'une politesse, vous allez chercher des propos de Paula Fitchell, qui est une dame qui s'est occupée de la maison pendant des années, tout ça n'est pas forcément très sérieux, ça ne fait pas partie de l'œuvre véritablement. Alors à ce moment-là, allons-y et rentrons dans l'œuvre elle-même et tâchons de voir comment la théorie confirme ces faits-là, car il y a effectivement, dans la théorie de Freud, de quoi montrer une compatibilité entre les thèses de Freud et le fascisme. Je ne dis pas que Freud est un fasciste. Il n'a pas pris sa carte à un parti, il n'a pas soutenu officiellement, en signant un papier ou une tribune ou je ne sais quoi, mais effectivement, il y a un compagnonnage avec le fascisme de Dollfuss et un compagnonnage également avec Mussolini. On nous dit habituellement que Freud est apolitique. Il ne s'est jamais occupé de politique, la politique n'a pas été son problème et qu'il est totalement insoucieux des affaires politiques. C'est faux. Quand il s'agit du marxisme-léninisme, du bolchevisme, du communisme, il y a des développements de Freud. Je renvoie à L'avenir d'une illusion, Malaise dans la civilisation et à d'autres textes que je vais analyser avec vous. Il y a un anti-marxisme chez Freud. Et il est radical puisqu'il nous dit que le marxisme, en tant qu'il veut en finir avec la guerre, l'exploitation et la misère, est une illusion. Ça aussi, on peut imaginer que ça peut plaire à Mussolini. Le marxisme est une illusion. Il donne son accord, Freud, sur cette idée que Marx a raison de pointer le déterminisme économique. Et vous connaissez la phrase célèbre de Marx qui nous dit que l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique. L'infrastructure économique, c'est le mode de production. Et c'est par exemple le mode privé de production, la propriété privée des moyens de production. Qu'est-ce qu'une superstructure idéologique? La religion, la philosophie, la pensée, l'art, l'éthique, la morale, enfin toutes ces choses-là. Donc Marx dit effectivement l'économie, le type d'économie d'une nation ou d'un pays détermine la façon de penser des individus qui constituent cette nation. Et Freud dit d'accord là-dessus, effectivement, il y a un déterminisme économique. Il y a un déterminisme qui ne rend pas possible le libre arbitre. Freud dit « les hommes ne sont pas libres », Marx dit « les hommes ne sont pas libres non plus ». Marx dit « ils ne sont pas libres parce que la société les constitue, parce que l'économie les constitue comme telle », et Freud dit « c'est pas suffisant ». C'est pas suffisant cette idée, il faut aller voir un petit peu plus loin, parce qu'il y a également ce qu'il appelle des motions pulsionnelles, c'est-à-dire une libido, c'est-à-dire un inconscient, c'est-à-dire un tempérament libidinal, et il nous dit « il faut compter également avec, citation, un indéfectible plaisir-désir d'agression ». Sous-entendu, cet indéfectible plaisir-désir d'agression, hein, c'est une variation sur le thème de la pulsion de mort, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a en chacun une jouissance à tuer, à casser, à détruire, à défaire, à salir, à insulter, etc., etc. Et Freud dit, vous avez beau faire la révolution, vous ne parviendrez pas à éradiquer ces fameuses motions pulsionnelles. Vous pouvez toujours faire la révolution autant que vous voudrez, il y aura toujours des aliénations, il y aura toujours de la guerre, il y aura toujours de l'agressivité. Donc le bolchevisme, d'une certaine manière, en tant qu'il part de cette négation de la liberté du libre-arbitre, il n'a pas complètement tort, mais il a tort sur ce sur quoi il débouche. Les conclusions sont complètement fausses. Donc critique de l'optimisme marxiste, critique également de son devenir religion, ce en quoi il est assez lucide. Quand on dit que Freud n'a pas le souci de la politique, il est très lucide quand il se fait analyste d'un totalitarisme à l'époque, enfin du totalitarisme rouge, et il nous dit « les œuvres de Marx, en tant que source de révélation, ont pris la place de la Bible et du Coran, bien qu'elles ne soient sans doute pas plus exemptes de contradictions et d'obscurité que ces livres sacrés plus anciens ». Il nous dit « le marxisme en tant que tel se présente comme un matérialisme dialectique ». C'est sa définition. Donc il n'y aurait que des causes matérielles et les effets seraient produits par des causes. Et il faudrait agir sur les causes pour modifier les effets. Et Freud nous dit « peut-être qu'il fait profession de matérialisme dialectique et qu'il critique les illusions de l'idéalisme, mais il est lui-même dans l'illusion idéaliste. Le marxisme est victime d'une illusion idéaliste. On ne va pas vers une humanité pacifiée. Jamais la révolution ne permettra d'avoir une égale répartition des biens, une possibilité pour les hommes de vivre heureux, une disparition totale de la guerre, la fin de l'aliénation, enfin toutes ces choses-là, nous dit Freud, ne sont pas possibles. Il ajoute qu'il y a une espèce de contradiction extrêmement visible et très voyante entre le désir de paix affiché par l'Union soviétique et le fait qu'elle soit surarmée. Elle veut la paix, mais en même temps, elle prépare la guerre. Elle transforme en ennemi tout ce qui n'est pas elle, dit Freud, de la Russie soviétique. Elle entretient le ressentiment des pauvres envers les riches. Il nous dit, voilà, il y a des pauvres et il y a des riches, eh bien, on veut pendre les riches, déporter les riches, détruire les riches, supprimer les riches et la richesse, et puis faire de telle sorte que les pauvres puissent accéder à une espèce de bonheur généralisé. On entretient le ressentiment des pauvres à l'endroit des riches, et ça, c'est une variation sur le thème de la pulsion de mort. Le marxisme exige des sacrifices ici et maintenant pour un bonheur demain. Et de fait, ça a été longtemps la théorie du marxisme et des militants d'expliquer que peut-être, ce n'était pas parfait tout de suite, mais ça le serait demain. Et de fait, on peut imaginer que ces sacrifices qui ont lieu ici et maintenant, ils sont véritables et que le bonheur pour demain, il est très improbable ou il est presque impossible. De même, il considère qu'il n'y a pas que les inégalités sociales, que l'inégalité sociale, ce n'est pas le fin mot de cette aventure, et qu'il y a aussi des inégalités libidinales. Il nous dit, quand tous les bourgeois seront exterminés, il restera tout de même des différences qui seront de nature sexuelle. Il y aura des forts tempéraments sexuels, des faibles tempéraments sexuels, des gens qui auront une libido puissante, d'autres qui n'auront pas une libido puissante, et on fera quoi ? Quand on aura détruit tous les bourgeois, est-ce qu'on détruira aussi toutes les libidos puissantes qui peuvent porter menace et ombrage aux libidos qui le sont moins ? Question, nous dit Freud. Et puis, il sauve une chose dans l'aventure bolchevique, et là encore, c'est un texte que je souhaiterais vous lire, parce qu'il est intéressant. Il est extrait des nouvelles suites de leçons d'introduction à la psychanalyse. Ouvrez les guillemets, il y a aussi des hommes d'action, il parle de l'Union soviétique, hein, inébranlables dans leurs convictions, inaccessibles aux doutes, insensibles aux souffrances des autres quand ils font obstacle à leur dessein. Si la grandiose tentative d'un tel ordre nouveau est maintenant effectivement mise à exécution en Russie, c'est à de tels hommes que nous le devons. En un temps où de grandes nations proclament qu'elles n'attendent leur salut que de leur attachement à la piété chrétienne, le bouleversement qui a lieu en Russie, malgré tous ses traits peu réjouissants, n'en apparaît pas moins comme le message d'un avenir meilleur. C'est-à-dire que cet homme qui effectivement a du goût pour Dollfuss, qui a du goût également pour Mussolini, a également du goût pour un personnage qui, à l'époque, c'est pas bien compliqué, il s'appelle Staline. Ça veut dire effectivement qu'il y a une passion pour le césarisme autoritaire chez Freud, et que fascisme de droite ou fascisme de gauche, ce qui l'intéresse effectivement, c'est le fascisme. Il y a donc une théorie du César cynique dans l'œuvre de Freud. Je renvoie à un texte qui date d'août 1921, qui s'appelle « Psychologie des masses et analyse du moi », et précisément au chapitre intitulé « La masse et la horde originaire ». Il reprend dans ce texte-là les thèses de Totem et Tabou. Donc, vous connaissez l'histoire, il y a un chef de horde, un chef de meute, et puis il possède la totalité des femelles, et les enfants de ce père sont privés de la disposition des femelles. Les enfants, un jour, se rebellent contre leur propre père, tue le père, puis mange le corps du père dans un banquet cannibale, regrette ensuite d'avoir tué le père, et à partir de ce regret, à partir de ce remords, vont constituer la loi, le droit. Freud nous dit, c'est la vérité du réel. Cette histoire, ce mythe scientifique, comme il dit, cette histoire permet de voir comment fonctionne la relation entre le chef de la horde primitive et la horde primitive. Ce chef de meute, ce père primitif, ses actes intellectuels sont forts et indépendants, nous dit Freud. Sa volonté n'a pas besoin de celle des autres. Et on voit quelle figure peut être intéressante pour Freud, ce côté du père primitif. Il nous dit de lui, ouvrez les guillemets, « Il n'aimait personne en dehors de lui et n'aimait les autres que dans la mesure où il servait ses besoins. Son moi ne cédait rien de superfétatoire aux objets. » C'est-à-dire que le père de la horde primitive et le révolutionnaire marxiste-léniniste, bolchevique, ou Dollfuss, Mussolini et Staline, c'est très exactement la même chose. C'est une figure singulière. Et alors, très étonnamment, on découvre que le père de la horde, pour Nietzsche, pour Freud du moins, c'est le surhomme nietzschéen. Et c'est assez étonnant de découvrir ce texte, ouvrez les guillemets, « À l'entrée de l'histoire de l'humanité, il était le surhomme que Nietzsche n'attendait que de l'avenir. Aujourd'hui encore, les individus de masse ont besoin du mirage selon lequel ils sont aimés de manière égale et équitable par le meneur, mais le meneur, lui, n'a besoin d'aimer personne d'autre. Il a le droit d'être de la nature des maîtres, absolument narcissique, mais sûr de lui et ne dépendant que de lui. » Et puis, quelques pages plus loin, « Le meneur de la masse est encore toujours le père originaire redouté. La masse veut toujours encore être dominée par un pouvoir illimité. Elle est au plus haut degré avide d'autorité. Elle a, selon l'expression de Le Bon, la soif de soumission. Le père originaire est l'idéal de la masse qui, à la place de l'idéal du moi, domine le moi. » On voit bien que cet usage totalement délirant du surhomme nietzschéen va bien dans le sens nazi de l'époque. On a passé la moitié de l'année dernière à montrer que le surhomme était une figure métaphysique, une figure ontologique, et que ce qui définissait le surhomme, c'était une perspective éthique. Le surhomme, c'est celui qui sait qu'il n'y a que de la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est ce qui veut la vie en nous. Et Nietzsche nous dit, savoir ça, vouloir ça, aimer ça, c'est être un surhomme. Et nous jouissons, quand nous sommes surhommes, de la béatitude de celui qui sait qu'il y a une espèce d'éternel retour de la volonté de puissance. Pas grand-chose à voir avec une espèce de père de la horde primitive qui serait cynique, violent, agressif, sans morale, etc., etc. Le chef, c'est le père. Il magnétise les foules et il les invite à dormir comme le père. Freud nous dit c'est le père qui invite l'enfant à dormir, qui lui dit le soir qu'il faut aller se coucher, qu'il faut dormir. D'où ce magnétisme que le chef a sur les masses, sur les foules, sur le César, sur son peuple. Et il faut aller dans ce sens-là, puisque la masse, la foule, elle est barbare, intolérante, brutale. Elle ne respecte que la force, elle veut être dominée. Et alors là, on a une abondance de pages où Freud se contente de reprendre la psychologie des masses de Gustave Le Bon, est un penseur français, et ils nous disent qu'on sait habituellement, les foules aspirent à un maître, elle est conservatrice, en elle les inhibitions disparaissent, elle ignore la vérité, elle est sujette à la suggestion, elle est influençable, crédule, elle a des sentiments simples et exubérants, elle est excitée par des stimuli excessifs, elle se moque de la logique, on doit lui répéter sans cesse la même chose, elle ne respecte que la force, elle ne se laisse pas influencer par la bonté, elle exige la force de ses héros, l'âme de la foule est l'âme des primitifs, elle est soumise à la puissance magique des mots, avec laquelle on peut l'apaiser ou l'exciter. Elle chérit les illusions, elle se place sous l'autorité d'un seul, dont le prestige paralyse la critique ou le pouvoir de réfléchir librement. Voilà, en quelques mots, les quelques pages que Freud consacre à la foule en nous disant que l'homme est un animal de horde, être individuel mené par un chef suprême. C'est donc sa proposition politique, une élite, à la tête de cette élite, un grand homme, une espèce de César, cynique, sans foi ni loi, pas soucieux de morale, mais simplement soucieux de mater la foule, dresser la foule, guider la foule, conduire la foule. Voilà le projet politique idéal de Sigmund Freud. Et puis je termine en revenant à l'histoire. Il y a également une compromission extrêmement dommageable avec l'Institut Göring. Il s'agissait pour Freud de sauver la psychanalyse dans le Reich nazi. Alors là aussi, vous avez une carte postale habituelle. Il y a eu un auto-da-fé en 1933. On a jeté des livres d'auteurs juifs, dont Zweig, dont Einstein, dont Freud, bien sûr, Thomas Mann et quelques autres. Et puisqu'on a jeté des livres de Freud au feu, c'est donc qu'on aurait voulu jeter Freud lui-même au feu. C'est d'ailleurs ce que Freud disait lui-même. Il y a un progrès, une époque, c'est moi qu'on aurait jeté au feu. Maintenant, on se contente d'y jeter mes livres. Et donc, cette idée est que la psychanalyse est radicalement antinomique avec le national-socialisme, incompatible. C'est une carte postale. Si Freud est condamné, c'est parce qu'il est juif et pas psychanalyste. On verra que les psychanalystes continuent à fonctionner sous le Reich et au début avec l'assentiment, le consentement de Sigmund Freud lui-même. Je dis au début parce qu'il va mourir quelques mois plus tard. En janvier 1933, Ernest Jones est contraint à démissionner de l'Institut berlinois de psychanalyse, mais quelques temps plus tard, deux ans, en 1935, à la séance de la Société psychanalytique allemande, les Juifs sont contraints de démissionner. C'est toujours Jones qui s'occupe de ce genre de choses. Et il y a un non-juif qui s'appelle Félix Böhm qui est nommé pour s'occuper de ces choses-là. Il existe une dame que vous connaissez peut-être qui s'appelle Elisabeth Rudinesco et qui a écrit un magistral ouvrage intitulé « Retour sur la question juive » et qui écrit, je souhaiterais la citer à propos de Félix Böhm, qu'il est nommé pour, ouvrez les guillemets, « favoriser une politique de collaboration avec le nouveau régime ». Donc, on déjudaïse la psychanalyse, mais la psychanalyse continue. Une lettre de Freud à Max Eitingon, qui date du 19 mars 1933, met au point la stratégie de collaboration avec le régime nazi pour arrêter les modalités de cette collaboration. Au bout du compte, quand ils ont échangé plusieurs lettres, les deux tombent d'accord sur l'idée qu'il faut que la psychanalyse puisse continuer à exister sous le Troisième Reich. Je renvoie à un livre de Geoffrey Cox qui s'intitule « La psychothérapie sous le Troisième Reich ». Et cet auteur écrit « Sous le régime national-socialiste, j'ouvre les guillemets, une instance nazie facilitait la survie de la psychanalyse, à savoir l'Institut Göring ». Ce livre-là est publié aux belles lettres dans une collection dirigée par Alain de Mijola qui s'appelle « Confluent psychanalytique ». C'est donc pas du tout un ouvrage de négationniste ou de révisionniste. Alain de Mijola, qui est un grand historien de la psychanalyse, lui, donne sa caution à cet ouvrage-là en disant effectivement que sous le régime national-socialiste, il y a eu une instance nazie qui a facilité la survie de la psychanalyse. Il faut dire, pour l'anecdote, que cet institut Göring est le cousin du Göring que vous connaissez. La femme de Matthias Göring était elle-même en analyse et le fils de Matthias Göring suivait lui-même une analyse didactique, c'est-à-dire une analyse qui était susceptible de faire de lui un jour un psychanalyste. C'est donc difficile de dire que la psychanalyse et le Troisième Reich sont antinomiques et que la psychanalyse a été persécutée unanimement. Non, les Juifs l'ont été, ça oui. Et il y a eu donc une pratique psychanalytique sous le Troisième Reich. Elle valait ce qu'elle valait, ça c'est un autre sujet à l'évidence, mais elle n'a pas été détruite. Félix Böhm donc prenait ses ordres auprès de Freud via Max Eitingon et effectivement la psychanalyse a pu continuer à exister. On ne lui a pas déclaré la guerre en tant que telle, mais on a persécuté évidemment les Juifs. Et puis ultime anecdote, elle sera l'occasion d'ouvrir à l'année suivante, pendant que Freud travaillait à la possibilité pour la psychanalyse d'exister sous le Troisième Reich, eh bien Freud faisait ce qu'il fallait aussi pour évincer de toutes ses forces Wilhelm Reich, psychanalyste qui, lui, avait le malheur d'être bolchevique, d'être de gauche, de faire des consultations gratuites dans des dispensaires pour les pauvres et de souhaiter un Freudo-marxisme. Et pas la peine de vous dire que l'an prochain, nous consacrerons une partie de l'année à faire l'éloge de ce monsieur. Merci beaucoup. Donc les deux textes dont je vous ai parlé, enfin trois, mais deux pour le contenu politique, si vous voulez, la théorie politique de Freud, ce « Pourquoi la guerre ?» que vous trouvez dans le tome 19 des œuvres complètes, et puis « Psychologie des masses et analyse du moi » que vous trouvez dans le tome 16 des œuvres complètes. Donc toutes ces choses-là sont précisément développées. La correspondance avec Max Eitingon, Sigmund Freud, correspondance 1906-1939, est publié chez Hachette Littérature. C'est dense, hein, ça fait vraiment. Enfin, bon, voilà, il faut lire 1000 pages et c'est vraiment une petite typographie extrêmement serrée, mais on y apprend des choses considérables. Ce fameux livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Paul Roazen, La pensée politique et sociale de Freud, dans lequel il n'est pas question du tout de la politique de Freud, de Pommier, Freud apolitique, Gérard Pommier. Même chose, vous finissez la lecture de ce livre et vous vous demandez de quoi il était question, mais sûrement pas de politique. Et vous pouvez voir chez Paul-Laurent Hassoun, L'entendement freudien, Logos et Ananke, en sous-titre, chez Gallimard, Connaissance de l'inconscient, une analyse stupéfiante de ce texte de Freud. Et la conclusion de Paul-Laurent Hassoun, c'est que Freud est un anarchiste. Donc pour vous dire que franchement, tout est possible. Et de Geoffrey Cox, donc la psychothérapie sous le Troisième Reich, l'Institut Göring, confluent psychanalytique, les belles lettres, je vous le redis, dirigé cette collection par Alain de Mijola. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et d'apprécier tout le travail qu'il fait. Il a fait un très gros Freud et la France, et un premier volume, il y aura un second volume. C'est vraiment un vrai beau travail d'historien fait par un psychanalyste. Et puis cet ouvrage, Detlef Bertelsen, La famille Freud au jour le jour, souvenir de Paula Fichtel, presse universitaire de France, et de fait c'est l'histoire de Freud vue par la dame de confiance qui s'est présentée un jour chez Freud et qui est devenue pendant toute sa vie femme de ménage et de plus que ça, c'est-à-dire cuisine, vaisselle, les courses, elle allait chercher les cigares de Freud au quotidien, elle nettoyait les vêtements, etc. etc. Et donc elle a raconté ses souvenirs et c'est elle qui nous fait savoir quels étaient les goûts, les passions ou les intérêts de Freud pour le chancelier Dollfuss. Voilà pour la bibliographie.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son au Centre dramatique national de Normandie, Philippe Petit. Prise de son, Jean-Noël Durand, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Véronique Villa. Demain, les raisons d'un succès.